chemin de la sagesse. Une émission proposée par Michel Théron.
Michel Théron, bonjour.
Bonjour Guylaine, bonjour à tous.
Alors nous continuons vos réflexions sur la solitude et nous nous sommes aperçus dans l'émission qui précédait qu'il était question de la solitude, surtout dans la relation amoureuse finalement.
Absolument.
La relation à deux.
Voilà, la relation à deux. Et tout ce que nous pouvons faire dans l'amour, par exemple, dans cette relation à deux, c'est de reconnaître et de respecter la solitude essentielle de l'autre. Il y a là sûrement une profonde sagesse, puisque mon livre est consacré à la sagesse, sur les chemins de la sagesse. Mais cette sagesse n'est sans doute pas, et c'est bien dommage, ce que les gens attendent d'une relation. Alors, il y a une très bonne définition que Rilke donne de l'amour dans son livre « Lettre à un jeune poète ». Il nous dit « L'amour, c'est deux solitudes qui se protègent, se bornent et se rendent hommage. » Vous voyez ? C'est magnifique, ça. C'est inattendu, et c'est inattendu, et c'est magnifique, Parce que personne dans la vie n'appartient à personne, Bon, l'idée qu'on a d'appartenir à quelqu'un me semble vraiment un esclavage, Bon. Et on est loin, bien sûr, ici, de la fusion de type romantique. Nous en avons parlé lors de la dernière émission. Cette fusion à laquelle on aspire bien souvent. Alors, on voudrait se fondre dans l'autre comme deux flammes de deux bougies que l'on rapproche peuvent fusionner en une seule flamme. Mais c'est une illusion, Les amoureux, bien sûr, les nouveaux mariés, toujours rêvent de ne faire qu'un. Mais alors, dans la pratique, c'est bien beau de rêver de ne faire qu'un, mais dans la pratique, la question se ramène à savoir lequel des deux, Vous voyez, bon. En réalité, voyons lucidement les choses. Si la solitude de chacun, comme je le pense, est inévitable, si c'est une constante anthropologique, manifester de l'intérêt à l'autre, c'est accepter sa condition d'être solitaire, qui de toute façon nous est commune à tous les deux. Alors, je suppose, je ne sais pas, Guylaine, je suppose que vous l'avez lu, le livre de Gibran qui s'appelle Le Prophète.
Oui.
Voilà. Alors, il est magnifique ce livre-là aussi, comme le livre de Rilke. Voici ce qu'on lit dans Le Prophète de Gibran, à l'adresse des amoureux, « Versez-vous à boire, mais ne buvez pas dans le même verre. » Vous voyez, Donc ça, c'est très beau, éviter justement la promiscuité, c'est-à-dire la distance excessive entre les êtres. Gibran nous dit aussi que deux arbres que l'on plante trop près l'un de l'autre vont se faire de l'ombre, et ils ne pousseront pas bien. Donc il faut une certaine distance entre les arbres pour qu'ils s'épanouissent. De même entre les êtres, il faut garder une distance. Une bonne devise ou un bon programme pour les amants pour être, alors moi je dis souvent, toi sans toi, toi T-O-I, sans toi T-O-I-T, voilà, sans toi, voilà. Ou bien alors, à défaut, une maison avec deux ailes, bon. Alors vous me direz, oui, mais aujourd'hui, les mètres carrés coûtent cher. Alors je dirais au minimum, voyez, au minimum, selon ce que disait Virginia Woolf, une chambre à soi. Alors ça, c'est quand même possible, il me semble, une chambre à soi.
On peut sacrifier le séjour.
Peut-être, mais j'aime bien ce titre de Virginia Woolf, une chambre à soi.
C'est aussi sur la créativité littéraire,
absolument,
une chambre à soi.
Absolument, pour pouvoir écrire, bien sûr. Bon, donc pour pouvoir se retrouver seul,
oui,
parce que l'activité d'écriture est une activité éminemment littéraire. Bon. Alors, prenez par exemple la fameuse chambre nuptiale. Au rebours de ce qu'on nous dit et ce que nous disent alliés ensemble le catéchisme religieux et la doxa sociale, l'opinion courante, ou même le constant dormir ensemble, c'est souvent le tombeau de l'amour vrai. La vie commune, comme on dit, c'est aussi une vie banale, commune, vous voyez. Donc, cette fameuse promiscuité dont j'ai parlé, en amour et ailleurs dans toute vie sociale, empêche chaque solitude de s'habiter elle-même. Alors voilà, maintenant, jusqu'à présent, peut-être les auditeurs voient la solitude comme quelque chose de noir, de négatif. Mais non, je dirais au contraire, une fois qu'elle est perçue comme inéluctable, la solitude peut être apprivoisée Car comme toujours, on a peur de ce qu'on ne connaît pas, hein. Une fois qu'on intègre en soi la solitude, elle peut être habitée. Il y a une belle devise de Bernard de Clairvaux, je la dis en latin, « Beata solitudo, sola beatitudo ». En français, bienheureuse solitude, seule béatitude. J'aime bien le latin parce que ça fait paronomase, c'est-à-dire cliquetis verbal. Les phonèmes se rapprochent, hein. Bon, cette devise contient d'énormes ressources qu'on découvre en soi quand on cesse de la redouter, cette solitude, quand on l'accepte. On devrait en faire un mantra, c'est-à-dire une parole que l'on se répète, hein. Désormais, on ne dépend pas de l'autre ou des autres pour apprendre à vivre, hein, et on découvre enfin l'autarcie ou l'autosuffisante. L'autosuffisance. Alors, je pense que cette libération est éminemment souhaitable. Alors, il y a un très bel éloge de la solitude dans la fable de La Fontaine, Le songe d'un habitant du Mogol. Alors, je vais la lire, hein, elle se trouve donc à la fin de mon livre, dans la mini-anthologie poétique, hein, qui illustre en contrepoint ce que le livre dit de façon conceptuelle, hein. Jadis, certain Mogol vit en songe un vizir aux Champs-Élysées, possesseur d'un plaisir aussi pur qu'infini, tant en prix qu'en durée. Le même songeur vit en une autre contrée un ermite entouré de feu qui touchait de pitié même les malheureux. Le cas parut étrange et contre l'ordinaire. Minos, en ses deux morts, semblait s'être mépris. Le dormeur s'éveilla, tant il en fut surpris. Dans ce songe pourtant, soupçonnant du mystère, il se fit expliquer l'affaire. L'interprète lui dit, « Ne vous étonnez point, votre songe a du sens. Et si j'ai sur ce point, acquis tant soit peu l'habitude, c'est un avis des dieux. » Pendant l'humain séjour, ce vizir quelquefois cherchait la solitude, cet ermite au vizir allait faire sa cour. C'est la première partie de la fable, la partie narrative, anecdotique, hein. Donc comment ça se fait justement que le vizir, qui est un homme public, un homme qui se prodigue dans la société, hein, soit au paradis, en quelque sorte, les Champs-Élysées, c'est le paradis des Grecs et des Romains, hein, bon. Et puis comment se fait-il qu'un ermite, qui normalement doit vivre tout seul, hieremos en grec c'est le désert, hein, hieremos, érémitique ça veut dire désertique, l'ermite, eh bien lui il est en enfer, il est entouré de feu, il brûle. Alors, c'est incohérent. Alors, l'interprète, l'onirologue, c'est-à-dire celui qui interprète les rêves, donne la solution, hein. Ce vizir, quelquefois, cherchait la solitude, cet ermite au vizir allait faire la cour. Alors, la deuxième partie de la fable, elle est très belle, très lyrique. La Fontaine nous fait l'éloge de la solitude, qu'il aime énormément. Alors, voici ce qu'il dit. « Si j'osais ajouter aux mots de l'interprète, j'inspirerais ici l'amour de la retraite. Elle offre à ses amants des biens sans embarras. Bien pur, présent du ciel, qui naissent sous les pas, solitude où je trouve une douceur secrète, lieu que j'aimais toujours, ne pourrais-je jamais, loin du monde et du bruit, goûter l'ombre et le frais, ô qui m'arrêtera sous vos sombres asiles. Quand pourront les neuf sœurs, loin des cours et des villes, m'occuper tout entier et m'apprendre des cieux les divers mouvements inconnus à nos yeux, les noms et les vertus de ces clartés errantes, par qui sont nos destins et nos mœurs différentes? Que si je ne suis né pour de si grands projets, du moins que les ruisseaux m'offrent de doux objets, que je peigne en mes vers quelques rives fleuries, la parque à filets d'or n'audira point ma vie, je ne dormirai point sous de riches lambris, mais voit-on que le somme en perde de son prix, en est-il moins profond et moins plein de délices, je lui voue au désert de nouveaux sacrifices. Quand le moment viendra d'aller trouver les morts, j'aurai vécu sans soin et mourrai sans remords. » C'est très beau, les deux derniers vers sont magnifiques, d'un très grand lyrisme. Hein. C'est les fables, livre 11, la fable numéro 4. Hein. « Quand le moment viendra d'aller trouver les morts, j'aurai vécu sans soin et mourrai sans remords. » Donc, vous voyez, cette solitude, si elle est habitée, elle peut effectivement nous apporter beaucoup de choses. Hein. Mais alors, je viens de citer La Fontaine. Mais enfin, par exemple, j'ai consacré un livre à l'Évangile selon Thomas, chez Dervy. Ça s'appelle « Une voix nommée Jésus, l'Évangile selon Thomas ». Je l'ai analysé en détail, et voici ce que dit cet Évangile au Logion 49. Hein. Jésus a dit « Heureux êtes-vous, les solitaires et les élus ». parce que vous trouverez le royaume, comme vous êtes issu de lui, vous y retournerez solitaire. Monakoi, il est écrit en copte, mais là c'est un mot qui est emprunté au grec. Monos, seul, hein, monos, d'où monique, etc. Seul, solitaire, vous voyez, hein. Vous voyez, Monique, puis en grec, Soledad, c'est en espagnol, comme prénom, etc. Vous voyez, donc c'est quelque chose d'intéressant. Donc la rencontre entre le fabuliste La Fontaine et le rédacteur, dit-on, gnostique de l'évangile selon Thomas, a priori c'est une rencontre improbable, hein, montre au contraire qu'il y a là un fond commun de sagesse, un trésor, un vrai trésor spirituel.
Il ne faut pas fuir la solitude et chercher à tout prix la compagnie. Il faut l'entretenir, cette solitude, la soigner.
Absolument, absolument. Vous savez ce que disait Garbo, Greta Garbo, hein? Elle disait toujours « I want to be alone », je veux être seule, vous voyez, hein? Bon, la divine, hein, Garbo, bon. Eh bien, Proust aussi disait « Je ne suis moi que seul », hein? C'est-à-dire débarrassé du regard des autres, de ce regard des autres dont nous avons fait la matière d'une émission précédente, hein. Bon, alors bien sûr, ici, les caractères vont différer, hein, bien sûr. Les introvertis sont plus à même de goûter la solitude que les extravertis, hein. Personnellement, bon, vous pouvez vous en rendre compte, j'ai plutôt une tendance à l'introversion, hein. Mais je pense qu'il faut défendre, justement, l'introversion. Il faut défendre les introvertis contre les extravertis. Pourquoi ? Parce que les introvertis vont s'épuiser à force de se protéger des intrusions intempestives des extravertis. L'extraverti est comme une pieuvre, hein, hein, qui phagocyte et vampirise tout son entourage. Alors, introversion, extraversion, ça renvoie au livre de Carl Gustav Jung qui s'appelle « Type psychologique », hein. Voilà, un livre essentiel de Jung, hein. Bon, donc il ne fait pas bon de vivre au contact des extravertis, hein, car on y perd sa substance intime. J'ai déjà parlé dans une émission précédente de ces fameux vampires psychiques. Tout le monde en connaît, de ces vampires psychiques qui détruisent leurs proches et leurs relations en les parasitant constamment, hein. Donc je crois qu'il faut défendre l'introversion, même si l'introversie apparaît dans sa bulle. Qu'est-ce qu'il vaut mieux être, dans une bulle ou la pieuvre, hein, la pieuvre qui se nourrit justement de la substance des autres. Alors nous allons écouter maintenant une belle chanson de Barbara qui s'appelle La Solitude, et ensuite nous reviendrons à ce problème.
Je l'ai trouvée devant ma porte un soir que je rentrais chez moi. Partout elle me fait escorte, elle est revenue, la voilà. La renifleuse, l'amour morte, elle m'a suivi pas à pas. La garce, que le diable l'emporte, elle est revenue, elle est là. Avec sa gueule de carême, avec ses larges yeux cernés, elle nous fait le cœur à la traîne, elle nous fait le cœur à pleurer. Elle nous fait des matins blêmes et de longues nuits désolées, la garce. Elle nous ferait même l'hiver au plein cœur de l'été. Dans ta triste robe de moire, avec tes cheveux mal peignés, t'as la mine du désespoir, tu n'es pas belle à regarder. Allez, va t'emporter ailleurs, ta triste gueule de l'ennui. Je n'ai pas le goût du malheur, va t'en voir ailleurs si j'y suis. Je veux encore rouler des hanches, je veux me saouler de printemps. Je veux m'en payer des nuits blanches, à cœur qui bat, à cœur battant. Avant que sonne le blême et jusqu'à mon souffle dernier, je veux encore dire je t'aime et vouloir mourir d'aimer. Elle a dit, ouvre-moi ta porte. Je t'avais suivi pas à pas. Je sais que tes amours sont mortes. Je suis revenue, me voilà. Ils t'ont récité le poème, tes beaux messieurs, tes beaux enfants, tes faux Rimbaud, tes faux Verlaine. Eh bien, c'est fini maintenant. Depuis, elle me fait les nuits blanches. Elle s'est pendue à mon cou. Elle s'est enroulée à mes hanches. Elle se couche à mes genoux. Elle m'a fait escorte, elle me suit pas à pas. Elle m'attend devant ma porte, elle est revenue, elle est là. La solitude.
Michel Théron, vous lisez, vous commentez votre livre sur les chemins de la sagesse et nous venons d'entendre Barbara qui chante La solitude. C'est un thème que nous abordons pour cette émission, solitude et autarcie. Elle n'en fait pas une belle personne, cette solitude, Barbara.
Ah, voilà. Alors justement, en écoutant cette chanson, je me suis dit que je l'ai utilisée à contre-emploi, en quelque sorte, hein, parce que la solitude est présentée comme négative.
Une garce, hein,
voilà, voilà. Alors que finalement, je défends l'idée opposée.
Mais je pense qu'elle parle cette solitude comme si c'était en opposition avec une vie amoureuse, une vie à deux, une vie pleine, comme si ça ne pouvait pas se faire avec une vie à deux, comme si elle le mettait tout ça en opposition radicale.
Voilà.
Or, c'est pas du tout ce que vous avez défendu.
Non, non, pas du tout. Mais justement, alors, la semaine dernière, nous avons écouté Georges Moustaki. J'aurais pu choisir, nous aurions pu choisir, vous voyez, Guylaine, la chanson de Moustaki, Ma solitude.
Hein. La sienne,
voilà, donc, et finalement, non, je ne suis jamais seul avec ma solitude,
oui,
comme il dit. Vous voyez, ça aurait été beaucoup plus approprié à notre propos. Hein. Mais d'une part, nous avons déjà passé Moustaki, donc nous préférons changer un petit peu.
Puis Barbara, quand même, c'est une merveille.
Absolument, absolument. Mais disons que, autant j'aime la mélodie de cette chanson, autant les paroles me semblent problématiques, hein, puisque la solitude, pour Barbara, c'est un abandon, l'impression de délaissement, une impression d'abandon, une impression de déréliction, délinquere, abandonné. Hein, voilà. Donc, pourquoi m'a-t-on abandonné, comme dit le cri du Golgotha, etc. Hein, bon. Donc, je crois que finalement, ça permet de voir comment beaucoup de gens voient la solitude, mais en fait, on peut la voir tout autrement. Et nous verrons tout à l'heure, à la fin de l'émission, que la solitude est positive. Ce qui est catastrophique, c'est l'isolement, hein, l'isolement, le fait d'être désocialisé. Alors, pour revenir à cette solitude que je défends, hein, je dirais qu'elle est souvent violée aujourd'hui par le mode socialisé d'existence qu'on nous impose, par exemple par l'école. L'école va stigmatiser, au nom de la socialisation nécessaire, les enfants qui la recherchent ou qui se trouvent bien en elle. Hein. Donc, un enfant s'isole, par exemple, dans un coin de la cour, etc.
On va s'inquiéter. C'est pas normal qu'un enfant soit...
Voilà, et ça c'est une erreur fondamentale.
Il ne faut pas qu'il s'ennuie.
Voilà, il ne faut pas qu'il s'ennuie. Tout à fait, Guylaine. Donc, cette solitude est souvent violée par certains parents aussi, comme vous dites. Je pense à l'attitude de plus en plus répandue aujourd'hui, qui consiste à suroccuper les enfants dans diverses activités, en dehors même du temps scolaire. Hein. Alors, par exemple, le mercredi après-midi, on les amène au foot, ou à la danse, ou je sais pas quoi, ou au skate, tout ce que vous voudrez.
Bon, mais pas que ça. Le skate, plus le foot, plus la danse.
Oui, absolument, absolument. Mais si on continue dans cette voie, on va faire de ces enfants des hyperactifs, instables et agités, qui seront coupés d'eux-mêmes. Hein. Alors on nous dit, comme vous venez de le dire, Guylaine, c'est pour éviter qu'ils s'ennuient. Mais alors j'irai plus loin. Je ferai l'éloge même de l'ennui. L'ennui est une bonne chose, une chose féconde et productive. Hein. C'est l'occasion de se réunir à soi-même, sans dépendre d'autre chose que de soi. Puisque dans la nuit, l'invention, la créativité personnelle sont des choses qui sont favorisées. Vous voyez, Guylaine, ça me fait penser à ces vacanciers qui, quand ils vont quelque part en vacances, ils vont aussitôt au syndicat d'initiative de l'endroit et ils se disent « Dites-nous le programme des animations ». Alors, des animations, comme s'ils n'avaient pas la force de s'animer eux-mêmes. Hein. Bon, il faut avoir... Voilà. Bon, on peut très bien s'animer soi-même. Pourquoi chercher des animations ? Personne ne peut vivre à notre place. Hein. Nous devons avoir le courage de vivre tout seul, face à nous-mêmes. Et c'est pourquoi nous devons faire en sorte de ne rien attendre d'autrui. Hein. Sinon, nous serons perpétuellement assistés, nous serons dans un état de dépendance. À cet assistana, préférons la liberté. Un peu comme dans la fable de La Fontaine, le loup et le chien. Hein. Eh bien, préférons le sort du loup, qui est peut-être famélique, mais qui est libre, à celui du chien, qui est gras, mais esclave, vous voyez. Ou bien alors, si nous demandons quelque chose à autrui, on retrouve ce qu'on disait lors de la dernière émission, ce sera seulement qu'il nous permette de vivre indépendant, une fois pour toutes, pour le reste de notre vie. S'il est intelligent, il le fera. Hein. Et si ce n'est pas le cas, on ne gagne rien à rester avec lui, comme je l'ai dit la semaine dernière. C'est, comme je l'ai dit, un cœur rudimentaire ou un analphabète du cœur, vous voyez. Donc, Épictète disait, à propos de cette autarcie de mon chapitre, là, il disait « Le bonheur appartient à ceux qui se suffisent à eux-mêmes ». En grec, « eudaimonia ton autarkon estin ». Autarcie vient de autarkos, qui veut dire « autosuffisant ». Alors, je sais bien que cette attitude peut surprendre. On nous a tellement dit, et en particulier au catéchisme religieux, qu'il faut dans la vie se dévouer aux autres, et que la rencontre de l'autre doit nous permettre de nous décentrer de nous-mêmes. Mmh. Je me souviens, un colloque des protestants libéraux même, un théologien connu était venu me dire, mais enfin, dans votre vision, vous oubliez que la rencontre de l'autre me décentre de moi-même. Alors j'ai été interloqué, je n'ai pas su quoi répondre, mais après, je me suis dit, mais non, en fait, il faut d'abord se centrer, c'est exactement le contraire. Seul un être qui s'est réuni à lui-même en solitude, qui s'est centré, peut ensuite s'ouvrir aux autres et communiquer avec eux de façon harmonieuse, avec écoute vraie des autres et sans projection ou sans attente d'aucune sorte. Mais ça, c'est un catéchisme religieux fréquent, se décentrer de soi-même, s'oublier soi-même, etc. L'autarcie, ce n'est pas un narcissisme complaisant, c'est un travail sur soi. Elle n'isole pas l'autarcie, elle est un préalable ou une propédeutique à la vraie rencontre d'autrui. Alors, il est bien vrai que l'homme est un être social, ça c'est sûr, et que la relation avec autrui est fondamentale dans la vie, ça c'est sûr. Mais c'est précisément l'autarcie qui permet une bonne socialisation. Vous voyez, Guylaine, moi j'aime beaucoup la randonnée en montagne, par exemple, l'été, et je vois combien les promeneurs solitaires sont capables, lorsqu'ils rencontrent quelqu'un qui les croise, de s'arrêter et de prendre le temps d'engager une conversation en écoutant l'autre, en faisant attention à lui. Je ne sais pas si vous en faites de la randonnée.
Pas trop. Pas bon. Mais je visualise très bien cela. Oui.
Voilà, on s'arrête.
Chacun sur son chemin, mais.
Voilà, ce sont des promeneurs solitaires. Oui. Mais une fois qu'ils rencontrent quelqu'un, alors la conversation s'engage et c'est une conversation sans masque, sans phare, sans projection, etc. Une vraie conversation. À l'inverse, dans la cohue des villes, Montpellier par exemple, les êtres sont agités et courent frénétiquement à des occupations qui les aliènent. Alors ils se frôlent les uns les autres, sans se rendre compte même qu'ils existent, vous voyez.
Dans le tram aussi, dans le métro.
Exactement.
La promiscuité.
Voilà, exactement.
On devient indifférent, finalement.
Voilà. Et en plus, avec toutes les prothèses électroniques, là, genre smartphone, etc.
Alors là, c'est l'isolement garanti.
Qui isole de façon schizophrénique. Ouais. En fait, ce sont ces gens-là, dans les villes, qui sont isolés, sans doute pour ne pas préalablement s'être fait face à eux-mêmes, en solitude. Et là, voilà la clé de toute notre discussion, Guylaine. Il faut bien distinguer deux choses, la solitude et l'isolement. La solitude est une bonne chose, bénéfique, féconde, mais l'isolement est catastrophique. Voilà. Il faut bien sûr pas s'isoler. Il faut lutter contre l'isolement, en se socialisant le plus possible, mais pas à n'importe quel prix, et surtout pas en faisant l'économie de sa propre solitude. Donc je ne sais pas si cette émission ainsi que la précédente m'a fait voir comme pessimiste, mais en faisant cette opposition, je ne le pense pas.
Bien sûr, là, elle est vraiment centrale, cette opposition. Quand vous dites opposer isolement et solitude, je pense au prisonnier qui est isolé, mais qui n'est jamais seul.
Absolument.
Et là, c'est la pire des punitions, finalement, cette situation-là.
Et oui, puisqu'il subit justement la promiscuité, comme vous le disiez, le contact des autres, etc. Donc,
il est certes privé de liberté, mais il est aussi isolé.
Voilà. Donc, l'isolement est très mauvais. Donc, je pense que l'homme est un être social. Aristote le disait, zoon politikon, c'est-à-dire un animal qui vit dans la police, la société, la police, la ville, la société. Là, c'est vrai. Mais la première étape, c'est d'abord le fait de se retrouver soi-même et de s'appartenir, voilà. S'appartenir, c'est un mot que j'aime beaucoup. En fait, il faudrait d'abord s'appartenir à soi-même, et ensuite on va pouvoir bien se socialiser, s'ouvrir aux autres, et les écouter avec patience, etc. Parce qu'on aura, on aura fini avec cette vie extravertie, agitée et complètement
hors de nous-mêmes, finalement.
Où nous sommes séparés de nous-mêmes.
On s'arrête là.
Ben oui.
On a fini le chapitre Solitude et Autarcie.
Solitude et Autarcie. La prochaine fois, on parlera du souci de soi, où on creusera encore ces choses-là, comme le laboureur qui creuse ses sillons.
Eh bien, d'ici là, portez-vous bien, Michel.
Au revoir à tous.
Au revoir.
Retrouvez Michel Théron sur son blog www.michel-théron.fr.